accès libre.
Salut tout le monde! En compagnie de Gaël Ouellette et de Rémi Hermoso, Luc Fortin pour ces prochaines minutes. Accès libre, édition du 28 novembre, dernière édition du mois de novembre. Mais on a eu une belle rencontre avec Gaël tout au long du mois et Mme Ouellette, on va continuer de se voir, d'autant plus que vous avez accepté de continuer à nous proposer des individus qui, eux aussi, vivent avec des maladies rares. Rappelons que vous êtes du regroupement québécois des maladies rares ou maladies orphelines.
Ça m'a fait plaisir d'être ici et puis c'était une belle expérience. Oui. Puis certainement, moi, je peux. C'est pas ça qui manque des maladies rares et des personnes à vous proposer.
Oui, vous parliez de 5000.
Oui.
Oui, pas personne, mais maladies.
Oui.
Aujourd'hui, entre autres, on va s'intéresser à un centre de mieux-être intergénérationnel inclusif à l'hôpital juif de réadaptation. C'est Monica Slanik qui est chercheure au CRIR. Qui va nous parler. Je voulais trouver un endroit où on pouvait amener nos enfants à mobilité réduite, jouer. Hein? Souvent, il y a des modules, que ce soit... Tu vas dans un restaurant familial, tu vas dans un parc, il y a des endroits où les jeunes peuvent jouer, mais y en a-t-il pour les enfants à mobilité réduite? Et semble-t-il que oui, mais bon, c'est encore rare. Monica, par contre, travaille et peut donner des pistes à ceux et celles qui veulent le rendre. Et on va ensuite poursuivre pour savoir où est rendu notre centre commercial Plaza Alexinéon. Eux qui ont commencé depuis un certain temps, toujours avec le CRIR, de s'adapter, de se rendre de plus en plus accessible. Donc, on va regarder à nouveau les avancées en espérant que ça fonctionne bien. Martin Bourassa est déjà devant nous. On va lui parler un petit peu plus tard. Lui qui fait partie justement des... appelons-le un des protégés de Gaël Ouellette. Et au bout du fil, dans le 88, on joint Émilie Raymond, qui est professeure à l'École de services social à l'Université Laval. Est-ce que je dis bien également l'Université du troisième âge, Émilie?
Non, Université Laval.
Parfait. Alors, bon, alors on fait une petite rature de ce côté-là. On voulait parler de cette idée de photoroman que vous avez... lancé avec un groupe d'aînés handicapés. C'est une étude ou une façon de se positionner, de se faire entendre et de se faire comprendre que vous avez ensemble, les membres de ce groupe, vous et un organisme communautaire, décidé de faire. J'aimerais ça d'abord qu'on commence par le commencement. Qui a approché qui?
C'est une bonne question. En fait, c'est un projet là de recherche-action participative qui est né au moment où moi, je faisais une recherche sur le thème de la participation sociale des aînés. Donc, j'ai fait plusieurs groupes de discussion là, pour que les aînés eux-mêmes parlent de ce que c'était pour eux la participation sociale. Puis à cette occasion-là, j'ai eu la chance là, de réunir des personnes qui vieillissent avec des incapacités physiques, motrices, de l'audition, de la vision. Puis ces personnes-là, lors du groupe de discussion, ont réalisé à quel point elles vivaient des expériences communes en matière de participation, puis à quel point elles étaient loin, je dirais, de pouvoir réaliser tous les projets là, de retraite ou de vieillissement qu'elles avaient en tête, notamment en raison du manque là, d'adaptation ou de la difficulté d'accès aux associations, aux groupes de personnes âgées.
Donc, cette réalisation-là a fait en sorte qu'on veuille dire à la société la participation sociale qu'on espère pouvoir offrir n'est pas aussi facile que l'on souhaite.
Absolument. Mmh. En fait, les gens, lors de ce groupe-là de discussion qui était, je dirais, fondateur, les gens ils se connaissaient très peu, mais tout de suite, on a voulu continuer à travailler ensemble. Question, oui, de réfléchir, mais aussi d'agir, finalement, pour que les personnes qui vieillissent avec des incapacités puissent, elles aussi, là, avoir la chance de réaliser des projets attrayants, des projets qui leur permettent, par exemple, de se réinventer à la retraite. Puis bon, une des façons, là, c'était de voir, de reprendre finalement une espèce de leitmotiv hein, des discours en ce moment sur le vieillissement qu'il faut que les aînés participent, il faut que les aînés contribuent socialement, de se demander bien, qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Est-ce qu'on a une façon à nous de le voir, ce message-là, puis qu'est-ce qu'il freine là, dans sa réalisation?
Il y a deux outils, Émilie. Il y a le photoroman et il y a le DVD. Je me demandais disons, les publics cibles de l'un et de l'autre et les objectifs de l'un et de l'autre?
En fait, le premier résultat du travail de groupe, ça a été vraiment le photoroman. Le photoroman, il est vraiment basé sur une création collective. Donc, on s'est rencontrés là, à de nombreuses reprises et tous les membres du comité ou du collectif de recherche. Donc, il y avait à la fois des personnes qui vieillissent avec des incapacités, des gens du carrefour familial, des personnes handicapées, des gens de la recherche, des artistes aussi qui nous ont aidés à donner forme à notre projet.
Puis c'est donc photographe, graphiste, j'imagine.
Photographe, graphiste, etc. Une auteure aussi, Sylvie Nicolas. Puis, on a donc raconté dans ce photoroman-là une version romancée, pas nécessairement romantique, mais adaptée finalement d'expériences qui avaient été vécues par les membres du groupe. Puis l'objectif, c'était de prendre la parole pour sensibiliser des intervenants, des gens de notre entourage, des décideurs politiques, des publics diversifiés, je dirais, sur différentes réalités des personnes qui vieillissent avec des incapacités en matière de participation sociale. Puis on avait une vision de la participation qui était très large, qui incluait par exemple les relations amoureuses, le fait d'être bénévole, le fait de vouloir participer au mouvement écologiste, par exemple, en transformant ses déchets en matière recyclable, mais bon. C'est difficile de le faire quand on n'a pas accès à la boîte de recyclage, etc.
Ouais,
donc ça, c'est un public diversifié. Puis au début du projet, il y a une des participantes qui a dit « ça n'a pas de bon sens qu'on s'enregistre pas » parce que c'était beau nous voir aller ensemble dans la manière dont on a construit collectivement le projet, au-delà des différences entre les incapacités puis aussi des différences de discours entre citoyens, gens de la recherche, artistes, etc. Donc, il est né l'idée de faire un DVD qui rende compte de notre démarche, puis qui accompagne très bien, je dirais que c'est très complémentaire avec le photoroman, qui nous permet peut-être de rejoindre un public peut-être moins lecteur pour différentes raisons, puis qui me donne un peu d'humanité, je dirais, de concret au photoroman.
Est-ce qu'il est à grande distribution, ce photoroman?
C'est sa troisième réédition en ce moment. Donc, on l'a diffusé gratuitement. Il y a plus de 1000 copies là, qui ont été distribuées au Québec et même au Canada et à l'international.
Ouais.
Puis donc, il est en constante réédition. On l'a envoyé dans différents milieux. Puis chaque fois qu'on nous fait la demande, on en offre gratuitement.
Émilie Raymond, bon, vous avez participé à ce projet-là parce que vous étiez à la recherche de quelque chose. Si ça a donné une voix à ces gens-là, vous cherchiez quoi? Vous vouliez valider quoi?
En fait, moi, ce qui me troublait, je dirais, quand j'ai commencé à travailler sur le thème de la participation sociale des aînés, c'est l'unanimité qui entoure ce thème-là. C'est comme si dans la société, on dit qu'il faut que tous les aînés participent. Puis ça peut être intéressant parce que c'est un renversement d'une idéologie qui était celle du désengagement des personnes aînées. Évidemment, ça a beaucoup changé. On est vraiment de l'autre côté du continuum. Mais moi, ça m'a toujours dérangé parce que ça transforme la participation en une norme, en une espèce d'injonction. Il faut participer pour avoir un vieillissement réussi, puis il faut le participer d'une façon précise, c'est-à-dire en étant bénévole, en donnant beaucoup de temps à sa famille, à son entourage, etc. Puis j'avais un peu l'intuition là, que c'était pas des discours qui convenaient à tout le monde, notamment des personnes qui peuvent vivre des difficultés ou de la marginalisation, personnes qui ont des incapacités, qui sont issues de l'immigration, etc. Donc, par le biais de la démarche du photoroman, c'est un peu ce qui m'intéressait, d'aller voir comment les gens y réagissent au discours, à la participation des aînés, puis comment ils les interprètent, comment ils les vivent finalement, leur pratique de participation au quotidien.
Pour avoir vu le making-of, les coulisses sur le DVD, j'ai cru percevoir des gens qui avaient quand même le sourire, qui avaient l'air heureux. Pourtant, leurs propos et ce que je crois comprendre du photoroman, c'est plutôt les frustrations, les handicaps imposés socialement.
Oui.
Et j'avais envie de savoir, bon, un, je voyais comme une contrariété, et deux, est-ce qu'eux sentent qu'ils ont une appelons-la, une vieillesse réussie?
C'est une bonne question, hein? Puis dans le photoroman, puis dans le processus là, de la recherche action, il y avait 12 personnes. Puis ces 12 personnes-là ont des trajectoires différentes les unes des autres. Donc, c'est difficile pour moi de parler là, ouais, de l'ensemble des gens. Je dirais que ce sont des personnes qui sont habituées de se battre, hein? C'est des personnes qui vieillissent avec des incapacités importantes depuis leur plus jeune âge, dans la plupart des cas. Donc, c'est des gens qui parfois sont fatigués d'avoir à se battre, d'avoir à négocier des accommodements qu'ils ont négociés pour aller à l'école, pour travailler, parce que la grande majorité ont été des travailleurs dans le monde du travail là, régulier. Mm-hmm. Puis là, arriver à l'âge, tu sais, dans leur vieillesse, c'est comme s'il y a une nouvelle lutte qui se présente devant eux parce que les associations puis les milieux communautaires d'aînés sont pas tout à fait inclusifs. En fait, ils ne le sont pas du tout. Puis le mouvement des personnes handicapées, c'est une zone un peu... c'est une zone qu'on n'a pas encore explorée. Les luttes du mouvement des personnes handicapées ne touchent pas encore beaucoup le monde du vieillissement.
C'est que j'imagine que les premiers qui ont commencé tout ça, ben ils sont rendus à cet âge-là.
Absolument.
Et donc, ils sont obligés de déblayer, de déneiger, puis là, ils n'ont peut-être plus envie de faire ça à 60-65.
Absolument. Ouais. Bien, il y a une usure de la lutte, puis il y a une usure du corps aussi. Mm-hmm. Plusieurs vont dire on vieillit plus vite que les autres, notre corps se fatigue. Des personnes en fauteuil roulant, bon, par exemple, qui ont fait des transferts toute leur vie, à un moment donné, ils ont moins de force, etc. Donc, c'est sûr que ça influence leur vision du terme. Ce que j'allais ajouter tout à l'heure, c'est aussi que le terme de la participation sociale, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il parle beaucoup du futur, puis de la projection finalement des personnes, puis que malgré les difficultés, il y a un appétit puis un désir de vivre à fond cette nouvelle période-là, qui est présentée comme l'occasion d'un renouveau hein, socialement. Mm-hmm. C'est un peu ce que les gens souhaitent avoir l'occasion de vivre.
Si on veut mettre la main sur le photoroman, Émilie, on fait...
Alors, il faut communiquer avec le Carrefour familial des personnes handicapées. Très facile à trouver là, sur Internet, mm-hmm, si vous écrivez ce nom-là. J'ai malheureusement pas le numéro de téléphone.
Non, mais on va tout mettre ça sur la page de l'émission. Alors,
parfait.
C'est correct de ce côté-là. C'est coûteux?
Non, en fait, on vous le fait parvenir gratuitement.
Ah, c'est bien gentil.
Pour le photoroman, pour le DVD, il faudrait vérifier.
Ouais. J'imagine qu'il n'y a pas de version accessible pour les personnes handicapées de la vue?
Pour le DVD, oui.
Et ça, c'est extraordinaire, je tiens à le souligner.
Oui, c'est ça, vous l'avez remarqué.
Oui,
pour le photoroman, oui, malheureusement, non.
Ouais. Non, c'est la première fois que je recevais un documentaire où on me disait, si jamais, Luc, tu as envie de le voir en VD, fais le 2. C'était comme, ben voyons donc, j'ai été bouche bée. Émilie, je n'ai jamais eu à le faire, donc je ne savais même pas de quel deux il était question, mais j'ai réussi.
Bravo.
Alors, on a joint le geste à la parole en parlant d'inclusion.
Tout à fait. Les professeurs à l'École de service social de l'Université Laval, Émilie Raymond, donc une des collaboratrices de ce photoroman. Tout est sur la page du Accès libre et le DVD est intéressant également. On écoute Louis-Jean Cormier qui chante du Martine Sinclair. Aïe, aïe, aïe.
Ce soir, c'est étrange. Tes yeux, je vois passer des anges. Puis y a même dans tes silences des mots d'amour en transparence. Ce soir, c'est bizarre. Tellement, tellement, je veux y croire. La douceur et les sourires, trop de promesses qu'on ne peut tenir. Mais après, auras-tu encore cette façon de me regarder? Mais après, diras-tu encore qu'ils me font chavirer. Ce soir, l'amour est dans tes yeux. Mais demain matin, m'aimeras-tu un peu? Ce soir, l'amour est dans ta voix. Mais demain matin, penseras-tu à moi? La, 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 la. J'ai peur tout simplement que de nous deux je sois perdant et un beau jour me retrouver tout seul à force de trop aimer. Alors jure-moi d'avoir toujours façon de me regarder. Oui, jure-moi de me dire encore ces mots qui me font chavirer. Ce soir, l'amour est dans tes yeux. Mais demain matin, m'aimeras-tu un peu? Ce soir, l'amour est dans ta voix. Mais demain matin, penseras-tu à moi? Ce soir, l'amour est dans tes yeux. Mais demain matin, m'aimeras-tu un peu? Ce soir, l'amour est dans ta voix. Demain matin, penseras-tu à moi? La, 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 la.
Ouais, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là. Gail Ouellet, vous nous apportez encore une fois de l'eau au moulin de ces maladies orphelines que pour la plupart on découvre. Mais cette fois-ci, c'est un homme.
Ben oui.
Hein, on était dû.
Il me semblait que tu me reprochais d'avoir trouvé plus de femmes.
J'ai fait ça, moi.
Mais oui, oui, c'est un homme. Puis en plus, il est rare dans sa maladie, rare mais connue, hein, parce que c'est une maladie qui touche plus les femmes.
Oui, à 80%.
À 80%.
Approchez-vous un tout petit peu, Martin.
Donc, c'est ça. Il est... Il y a une rareté là du fait qu'il soit un homme. Puis quand ça arrive, ça, souvent, ben, on en parle moins, hein, des
c'est
hommes
vrai.
Qui sont
ouais.
atteints.
Ouais.
Alors, encore une maladie mal connue. Là, qui,
Très mal, même.
Oui. Est-ce que tu vas essayer de dire le nom, Luc?
Ah oui, ben d'abord, Martin Bourassa. Cystite interstitielle.
C'est bien ça.
Ouais.
C'est ça.
On a ça depuis quand, Martin?
Depuis l'âge de 15 ans.
Mais ça se manifeste comment au départ?
Mon Dieu, du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec l'impression d'avoir le pénis ouvert en deux au couteau, carrément.
Colin.
Carrément, carrément. Et tu te mets à uriner des lames de rasoir jusqu'à plus de 90 fois par jour.
Continuez donc, Gail. Moi, je fronce les sourcils.
Oui, tout à fait. Je, ouais. je te comprends, sérieusement. Oui,
puis c'est ça. On n'a pas fait une grande introduction, là, mais une cystite, hein, ça a à faire ouais. avec... avec la vessie, en
tout
fin de compte.
Fait.
On est dans le système génito-urinaire.
À pas se tromper avec la cystite bactérienne, par exemple.
Oui, c'est ça. Fait qu'il va, je pense qu'il va être capable de nous expliquer ça. Mais ce qui est important de dire aussi, c'est pas juste hein, l'aspect médical, l'aspect sur la santé, mais à cause que ça touche ce système-là, il y a aussi des tabous, puis
oui,
des aspects psychologiques.
Oh, oui.
Mais je pense que Martin il est bien placé pour nous dire c'est quoi la cystite interstitielle. essentiel.
Oui, tout à fait. En gros, la vessie produit une protéine qui sert à protéger la peau dénudée de la vessie, ses dizaines de milliers de nerfs, contre l'urine. Et dans notre cas à nous, on ne sait pas pourquoi, cette protéine arrête d'être produite, ce qui fait que l'urine passe et va toucher aux dizaines de milliers de nerfs de la vessie, ce qui envoie des douleurs terribles au niveau du cerveau et déclenche des envies d'uriner permanentes et extrêmement souffrantes.
Est-ce que, je ne sais pas si c'est l'ammoniac ou qu'est-ce qui fait que l'urine et les nerfs s'entendent pas trop, trop bien, mais en modifiant nos entrées de liquide, il y a lieu de réduire les malaises?
Oui, en l'acidité, par exemple, puis en diminuant toutes les toxines possibles. C'est sûr qu'on diminue.
Donc, on boit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau?
Énormément, plus de 2 litres par jour.
Puis on se limite à quoi? Pas de jus de tomate ou justement de l'acidité, des jus d'orange?
Effectivement, rien d'acide.
OK. Okay.
Puis peut-être tu peux nous expliquer, là tu as parlé de douleur, mais c'est pas juste ça, hein, c'est miction fréquente, puis l'impact que ça a
tout
sur ta vie quotidienne.
Bien, c'est ça, c'est plus de 90 fois par jour qu'on va aux toilettes, donc plus de 20 fois en 8 heures de sommeil et plus de 20 fois en 8 heures de travail. Ça prouve à quel point c'est un gros problème, tu peux plus sortir de chez toi. C'est carrément...
C'est vrai?
Oui, oui, c'est des douleurs terribles, pire qu'un accouchement, d'après ce que beaucoup de femmes m'ont dit qui ont la maladie. C'est pire que leur propre accouchement, puis c'est 24 heures sur 24, 365 jours par année.
Mais Martin, on peut pas juste dire, moi, je vais accepter la sonde?
Qu'est-ce que tu veux dire par accepter la sonde?
Ben, je sais pas, plutôt un sac ou quelque chose pour que l'urine passe ailleurs ou...
Ça peut finir comme ça, mais c'est pas garanti que la douleur va s'en aller. Malheureusement, non.
Parle d'une affaire.
Et oui, c'est très difficile. Les médecins le connaissent très mal. Ça a pris 12 ans pour me diagnostiquer. Plus d'une vingtaine de médecins et 2 menaces d'internement pour douleur imaginaire.
On revient à la maladie rare. C'est que les médecins qui connaissent ce genre de mots-là, Gail, ne sont pas ceux que Martin a consultés.
Non, c'est encore assez incroyable parce que c'est pas la plus rare des maladies.
Non.
On pense même qu'elle est un peu plus fréquente que la définition d'une maladie rare. Ça peut être 1 sur 1500.
OK, vous n'avez pas d'affaire ici, finalement.
C'est pas une maladie orpheline dans les termes.
C'est-à-dire, c'est
monoparental. Peut-être?
Sur la clôture d'être une maladie rare, mais on peut dire orpheline. Quand ça prend 12 ans pour dire
une
maladie, c'est que ça veut dire qu'elle est mal connue. Puis, vous savez, quand c'est des symptômes non spécifiques qu'on appelle, donc quelqu'un arrive à l'urgence avec des grosses douleurs abdominales, c'est ça. Et c'est pour ça que le zèbre, c'est le symbole des maladies rares, c'est qu'on va chercher ce qui est commun en premier. Puis si on ne trouve pas, ben là, on ne trouve pas. Puis la cystite interstitielle, malheureusement, on n'y pense pas souvent.
Tout à fait. Puis quand ils ne trouvent pas, ben on t'envoie dans la santé mentale.
Ben oui, non, c'est vrai. À un moment donné, on ne le sait plus. Et on veut aider la personne parce que nous-mêmes, on est démunis comme spécialistes. Le gars, lui, il sait qu'il n'est pas fou parce qu'il a vraiment mal. Est-ce que, bon, vous disiez, c'est presque impossible de quitter. Bon, de toute évidence, vous êtes ici, vous travaillez, vous avez un job régulier.
Oui.
Comment tout ça se passe?
C'est sûr qu'en ce moment, ça va beaucoup mieux qu'avant. Depuis que j'ai été diagnostiqué, j'ai les bons traitements, j'ai la bonne alimentation, j'ai fait de la physiothérapie, de l'ostéopathie. Je suis un des chanceux
à... La physiothérapie.
Tout à fait. Je suis un des rares à quand même aller bien. Mais non, c'est sûr que c'est difficile comme maladie, très difficile.
Donc, on ne peut pas travailler? Ou...
Ben, oui, je peux travailler.
Martin a trouvé une solution. Okay. Hein,
Je travaille de nuit comme concierge. La seule job que j'ai pu trouver ou que je peux aller aux toilettes plus de 20 fois en 8 heures de travail.
Parce que le patron n'est pas là?
Non, parce qu'il y a toilettes partout.
OK.
Et j'aurais pas réussi sans malheureusement utiliser du cannabis. J'ai dû en consommer en quantité industrielle, sinon j'aurais jamais pu sortir de chez moi ni même travailler.
Parce que ça ralentit...
Ça diminue la douleur, ça diminue les fréquences urinaires, pas énormément, mais assez pour que je puisse survivre, comme on dit.
Puis les traitements, ce qu'on en sait, c'est que ça marche pas pour tout le monde.
Non, c'est
de la
vrai.
Même façon, on essaie plusieurs choses. Hein. Tu as dû passer à travers différents traitements.
Bien,
là,
le médicament que je prends, Elmiron, qui a découvert, c'est avec ça que j'ai découvert la maladie, ne fonctionne que chez 38 % des malades.
Mais monsieur.
Et il prend jusqu'à un an à faire effet.
Hey!
Et oui, il donne des très graves problèmes d'estomac, il fait perdre ses cheveux. Sinon, d'autres traitements, mais c'est par instillation. On te rentre directement un tube dans le pénis jusque dans la vessie et on t'injecte directement des médicaments. Ça peut être une fois par semaine pendant 4 à 6 semaines, puis après ça, on espace aux 2 semaines, aux 3 semaines. Pour ceux pour qui ça fonctionne, c'est merveilleux, mais pour ceux qui ça fonctionne pas, ouch, ouch et ouch. Effectivement. Fait que, non, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres traitements, mais c'est les deux principaux. Ouais,
ma face parle beaucoup, mais l'animateur peut.
Non, c'est. Puis est-ce que ça t'a amené, à part le travail, d'autres. Il y a d'autres impacts sur ta vie? Là, que...
Ben, au niveau de tout ce qui est vie sexuelle.
Quelle vie sexuelle?
Ben, c'est ça. Que ce soit la masturbation, la pénétration, là, donc c'est pratiquement impossible.
Bien, la masturbation reste possible, mais c'est très douloureux. Ben, oui, ça fait mal. Ça
c'est
mal.
Pas le but de la masturbation?
Non, c'est sûr, là, mais je suis un gars quand même.
Je comprends. mais là, il faut se demander, j'en ai-tu vraiment envie?
Disons que l'endorphine, c'est un bon antidouleur aussi.
L'endorphine, oui, il va fort, là.
Oui, on va fort, mais ça...
Okay, c'est plus fort que le cannabis, ça?
Ben, les deux mélangés, c'est un bon remède.
Il faut trouver son détaillant.
Ben, je rappelle que c'est des douleurs pires qu'un accouchement. Hein,
Ça a-tu été difficile de convaincre le pharmacien que vous en méritiez ou on vous le prescrit? Puis...
Non, c'est une maladie non reconnue. Fait que, je m'arrange, comme on dit.
Oui, c'est plusieurs maladies que des douleurs comme ça. Celle-là particulièrement. Fait que les gens, il faut qu'ils trouvent leur moyen de se soulager.
Puis là, on dit que c'est encore plus difficile pour les femmes.
Plus difficile, oui, parce que les femmes sont prédisposées à avoir des infections urinaires. Puis avec cette maladie-là, vu qu'ils n'ont plus la couche protectrice, ben, ils en font à répétition. Puis ça peut être dangereux parce que comme c'est beaucoup les mêmes symptômes en moins fort que la cystite interstitielle, quand une cystite n'est pas guérie, ben, ça peut monter jusqu'au rein. Puis bon, ça peut devenir très problématique. Fait que les femmes qui ont ma maladie sont obligées d'aller à l'hôpital constamment faire des tests pour les infections urinaires.
Est-ce qu'on connaît la cause?
Non, malheureusement. Non. Fait que tout ce qu'on sait, c'est qu'on a une protéine spéciale dans nos urines qui ne se retrouve pas dans les urines de ceux qui ne sont pas malades. Fait que c'est tout ce qu'on sait.
Est-ce qu'il y a des atteints en couple?
Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Ben, dans le sens, on parlait de sexualité tantôt et je me posais la question, les personnes qui sont en couple, comment on négocie ça?
Dans une grande majorité des cas, on devient célibataire.
Mmh. Ouais, c'est...
Pour cette raison-là?
Oui. Tout à fait. C'est rare qu'une personne va vouloir rester avec une autre personne puis qu'il n'y ait pas de sexualité puis qu'il soit dans des douleurs terribles, qu'il ne peut pas sortir de chez eux. Ben, écoute, je parle à beaucoup de monde qui sont des douleurs chroniques puis la plupart finissent célibataires.
C'est malheureusement. Beaucoup l'isolement, alors.
Oui,
hein,
oui,
l'isolement,
oui. L'incompréhension
la vie
aussi.
Sociale aussi qui est touchée.
Oui, mais on n'a plus de vie pantoute. C'est travail, maison, puis c'est tout.
Je voulais vous remercier, Martin, d'être ici
en
plein jour alors que vous devriez coucher.
Ben merci à vous.
Ben pas que je veux que vous, tu sais, dans le sens vous devriez, là, je veux pas être votre parent.
J'y vais.
Et bonne nuit.
Ben merci
à
vous.
Rendez ça propre à l'Université de Montréal. Donc, Martin Bourassa, on apprend la cystite interstitielle. Je suis vraiment désolé pour vous. Gail, vous restez avec moi. On s'arrête 2 minutes.
Au revoir, Martin.
Au revoir.
Vous écoutez Accès libre.
Toujours avec Rémi Hermoso, Gail Ouellet, qui est directrice du regroupement québécois des maladies orphelines aux réseaux sociaux. Claudia Benoît, mon nom est Luc Fortin. Et avec nous, Delphine Labbé et Monica Slavik. J'ai changé de feuille, Monica. Votre nom de famille?
Slanik.
Hein, vous deviez être tout de suite. Là, on a dit on va passer Delphine, puis finalement, j'avais plus la bonne feuille. Vous êtes toutes les deux du CRIR et on voulait aujourd'hui parler d'accessibilité en lien avec un centre commercial. C'est un endroit où on veut tous y aller, chacun pour ses raisons, mais que ce soit pour socialiser, que ce soit pour faire l'acquisition, ou simplement du lèche-vitrine. Et du côté de cette idée de développement stratégique multidisciplinaire, multisectoriel, on veut, avec la participation des propriétaires et de plusieurs organismes, Delphine, rendre et continuer de travailler à rendre Plaza Alexinéon accessible.
C'est exact.
Depuis combien de temps et dans combien de temps ce sera complètement accessible?
C'est une bonne question.
Depuis combien de temps on y travaille?
Le projet du laboratoire vivant au centre commercial a commencé en 2011. Des projets qui ont démarré à ce moment-là. Donc, ça fait maintenant 3 ans. Et le projet, on a eu des subventions. C'est un projet qui est subventionné par le Fonds de recherche en santé du Québec avec des fonds spéciaux, comme vous avez dit, stratégiques innovants. Et c'est de 2011 à 2015, donc pour 4 ans. Nous sommes dans notre dernière année officielle du Living Lab, du laboratoire vivant. Et on a, si on demande quand est-ce que le centre commercial va être totalement accessible, il faut préciser que le centre commercial a accepté d'ouvrir ses portes à nos chercheurs, aux chercheurs du CRIR, pour venir réaliser leur projet et de ce fait devenir plus accessible aux personnes vivant avec différentes incapacités. Mais et en fait, c'est que le centre commercial avait besoin de rénovation.
L'occasion était bien choisie.
Exactement. Ouais. C'était un vieux centre commercial, date de 1967. Donc, on dit, ben pourquoi pas, en fait, profiter de cette occasion-là. Donc, il y a beaucoup d'améliorations qui ont été faites, plusieurs en partie à cause des recherches de nos chercheurs puis de nos projets de recherche dans le laboratoire vivant. Je pense qu'il y a encore place à l'amélioration, mais vraiment, en fait, en ce moment, il y a un projet qui cible à regarder le avant et après, qui avait fait l'évaluation de l'environnement avant les rénovations, puis actuellement est en train de faire l'évaluation de l'environnement après. Par une designer, une chercheure en design de l'Université de Montréal.
Est-ce qu'après 2015, les propriétaires se sont engagés à poursuivre la démarche parce que finalement, ils vont savoir, je présume que vous allez vous laisser les plans et le chemin encore à parcourir et ils n'auraient qu'à poursuivre?
C'est certain qu'on va leur laisser, je pense. Ben, en fait, l'objectif, c'est que ça ne s'arrête pas en 2015. Mmh. Les fonds arrêtent en 2015. Il y a certains projets qui vont encore avoir besoin d'aller au centre commercial, donc c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une poursuite, puis on peut pas... Et l'objectif du CRIR, c'est d'étendre maintenant à d'autres environnements ce principe-là, les recherches pour améliorer l'accessibilité. Puis je pense qu'à ce moment-là, les propriétaires d'Alexis Nyon, je vois pas pourquoi ils voudraient plus continuer à participer, parce qu'au niveau des recommandations, en fait, et de l'architecture, des changements architecturaux, c'est surtout une de nos designers qui s'est... impliqués dans leur rénovation, dans leur réunion d'équipe de rénovation. Et eux, ils ont presque terminé en ce moment. Ils ont mis le hold, en bon français, sur les rénovations d'une section qui va demander beaucoup de travail. Puis peut-être qu'à ce moment-là, on va revenir avec eux quand ils seront rendus là. Mais là, ça faisait 2 ans qu'ils sont en rénovation, puis les locataires de Alexis Nyon veulent avoir une pause, la clientèle aussi, je pense.
Parlez-moi concrètement des réalisations jusqu'à maintenant et des projets en cours.
Donc, en fait, le laboratoire vivant, ça comprend environ une quarantaine de projets. Donc, il y en a qui sont au sein même du centre commercial, mais il y en a aussi, parce que c'est le CRIR, c'est un centre de recherche en réadaptation qui se passe dans les centres de réadaptation. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'objectif du laboratoire vivant, c'est la participation sociale, puis la réadaptation, c'est aussi son objectif. Donc, il y a certains projets qui sont en lien plus avec les cliniciens de la réadaptation, les programmes qui sont offerts, mais dans le but ultime qu'à la fin, la personne puisse se rendre au centre commercial. Donc, ceci étant dit, donc une quarantaine de projets, on en a qui testent des programmes de réadaptation, par exemple, un programme de thérapie par la danse. On a eu des programmes où les gens vont aider les personnes qui ont des traumatismes crâniens, qui vont aller à l'épicerie, savoir sur les fonctions exécutives, comment planifier son budget, comment choisir son épicerie, pas se mettre à acheter, succomber à son impulsivité, par exemple, quand on a un TCC.
Ouais.
On a eu des études. En fait, c'est le laboratoire vivant a 3 objectifs qui sont itératifs, mais le premier objectif, c'était l'identification des obstacles et des facilitateurs dans l'environnement. Puis ça, on a pas mal réalisé la plupart des études qu'il y avait à faire sur l'environnement du centre commercial. Donc, on a rencontré des commerçants, il y en a qui ont rencontré des adolescents, des familles d'enfants avec une incapacité. On a rencontré les cliniciens sur c'est quoi les obstacles facilitateurs à l'utilisation du centre commercial, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans la pratique de la réadaptation. On a des gens qui ont développé une réalité virtuelle en reproduisant le centre Alexis Nyon. Ça, c'est à l'hôpital juif de réadaptation. En fait, les gens qui vont s'entraînent dans une reproduction d'Alexis Nyon, puis on serait rendu à l'étape de dire, de comparer ceux qui se sont entraînés, est-ce que quand ils vont dans l'environnement réel, est-ce qu'ils sont meilleurs après?
Et quand vous dites s'entraîner, c'est quoi? C'est de circuler dans les corridors? C'est de...
Exactement. C'est souvent, en fait, ça, c'est des laboratoires qui travaillent beaucoup avec des gens qui ont eu des ACV, AVC. Donc, en fait, oui, se réentraîner à marcher, si on rencontre un obstacle ou se repérer dans les espaces. Il y a différents objectifs qui sont menés. Il y en a qui font même des études un peu plus fondamentales, si on veut, qui vont aller voir les zones du cerveau qui sont affectées quand on fait l'entraînement. Puis après, versus quand on va...
J'en conclue que c'est pas seulement de mettre des ascenseurs.
C'est ça, mettre du plâtre.
Dans le centre commercial.
Non, exactement. En fait, ça, c'est le résultat. Parce que le centre commercial, lui, par exemple, tous les les obstacles, puis facilitateurs identifiés, ça a été communiqué à Alexis Néon. Les chercheurs ont fait des rapports qui ont été transmis aux propriétaires d'Alexis Néon. Puis justement, l'ascenseur, c'est un bon exemple parce que toutes les recherches nous montraient qu'à Alexis Néon, les ascenseurs, on les trouvait pas, on les voyait pas. Il était petit, il n'était pas pratique et ben maintenant, il y en a un au milieu. Ça a été des grosses rénos, c'était pas prévu. Maintenant, c'est en plein milieu. Il y en a d'autres, par exemple, qui disaient que c'était dur de s'orienter, de trouver le kiosque d'accueil. Maintenant, le kiosque d'accueil est dans un endroit
visible,
central. Ouais. Plein de choses comme ça qui sont, je pense, qui étaient déjà dans les plans des propriétaires de l'Alexis Néon, mais qui ont été nourris par les différents résultats des projets.
Mais ça, c'est une bonne idée lorsqu'on est en rénovation de tâter le pouls de la clientèle.
Ah oui, tout à fait. Ouais. C'est on s'appuie sur les besoins, je pense que... Surtout au niveau de l'accessibilité universelle, dans le discours, c'est l'élément central. On ne peut pas faire d'aménagement sans savoir ce que les gens ont besoin.
En conversation avec Delphine Labbé, qui est chargée de projet au CRIR, le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation, les coûts de tout ça, est-ce qu'on arrive dans les budgets? Est-ce qu'on va être obligé de finir plus tôt? Est-ce qu'on a assez de sous pour faire tout ce qu'on pensait faire en 4 ans? On parle beaucoup d'argent ces temps-ci, là.
Oui, ben en fait, nous, on avait un budget établi, bon, qui a été... Ils ne pouvaient pas nous couper, par exemple. Non, il y avait un engagement sur cet argent-là, les fonds qui étaient versés. Donc, on essaie de bien les utiliser.
Actuellement, qui a signé votre contrat? Sûrement que les gens qui ont des fonds de retraite aimeraient bien avoir votre argent.
Mais je pense que c'est juste parce que ça dure 4 ans. mais non, donc ça, en fait, aussi, une chose, c'est que les sous, nous, c'est un projet structurant, innovant. Donc, idéalement, oui, on subventionne les projets de recherche. Tous les projets dont je vous ai parlé ont été subventionnés en partie par nous, mais souvent, ils faisaient les projets pilotes avec l'argent qu'on leur donnait. Puis après ça, ils allaient chercher d'autres sous dans d'autres moyens de subvention pour que ces projets-là continuent à vivre. Parce qu'on devait, c'est une des façons dont l'argent était dépensé. On paie des bourses étudiantes aussi, on a donné des bourses à des étudiants. On fait du transfert de connaissances, on essaie de participer à différentes activités où on peut faire connaître les résultats de recherche.
Bon, Delphine, vous le mentionnez, en tout cas, moi, ça m'apparaît, bon, le laboratoire vivant le dit bien, c'est un laboratoire. Maintenant, on aimerait tous que notre centre commercial ou notre centre sportif ou communautaire près de chez nous ait cette ouverture-là. Mais est-ce que c'est réaliste? Maintenant que vous voyez là, tout ce que ça implique, à quoi peut-on s'attendre dans l'avenir?
C'est une excellente question. Je me suis posé la question comme on est dans notre dernière année, on se pose beaucoup la question. Comme je vous ai dit, on veut aussi s'étendre à d'autres, peut-être d'autres milieux si c'était possible. Je pense que c'est sûr qu'une des choses au Québec, c'est la mise en place de politiques. On a la politique à part entière, mais on n'a pas de politique d'accessibilité, un peu comme celle dont l'Ontario... que l'Ontario s'est donné maintenant depuis 2005, qui oblige un peu... On sait que c'est pas l'idéal, mais c'est une des choses qui peuvent aider. Parce que les normes, par exemple, actuellement du bâtiment sont minimales.
C'est ça. Et il n'y a pas de fonds, il n'y a pas de programme d'aide et d'incitatif pour que les propriétaires disent « oui, on va le faire ».
Exactement. Nous, comme on disait, ça a bien à donner, parce que Cominor voulait faire les rénovations, donc on n'a pas forcé personne à les faire. Je pense que c'est sûr, en termes de coûts, on pense au coût personnel de ressources humaines, parce que moi, j'ai le poste maintenant depuis 1 an et quelques. Il y avait quelqu'un avant moi qui a tenu le fort pendant... Puis il y a les deux directrices scientifiques, Eva Kehaya et Bonnie Swain, qui travaillent très fort, qui sont extrêmement disponibles. Il y a les gens de Cominor, surtout Lorraine Leblanc, la directrice adjointe, qui est disponible avec nous. Puis les chercheurs, on a un comité exécutif. ces chercheurs-là ont un salaire qui vient des universités, donc ça leur permet de donner de leur temps sans que ça soit une dépense. Mais c'est des ressources humaines ouais. qui sont... on essaie de développer, puis je sais que c'est quelque chose qui est des lignes directrices, j'ai juste le mot qui me vient en anglais, là, des guidelines, mm-hmm. des guides de pratique, des recommandations. À Lucie Bruno, on fait des répertoires de lieux accessibles, puis je pense qu'en encourageant...
D'ailleurs, les 6 centres de réadaptation sont impliqués là-dedans. Là.
Oui, exactement.
Maintenant, en terminant, est-ce qu'on peut transférer des connaissances recueillies dans ce contexte-là ailleurs, un peu comme ce que l'on fait en course automobile ou dans les dépenses faramineuses de l'espace, ou est-ce que ça peut être utile dans d'autres circonstances que l'on ne prévoyait pas peut-être?
Oui, je pense totalement. Qu'on prévoyait pas, parce que je pense qu'on a toujours eu l'objectif dans le projet que ces connaissances-là puissent s'appliquer mm-hmm. à d'autres environnements. C'est sûr que c'est aussi de la recherche. Donc, il y a beaucoup du transfert ou du partage des connaissances actuellement, que c'est des publications scientifiques, c'est de la recherche. Donc, ça nourrit le monde de la recherche et les autres chercheurs qui voudraient... Je pense qu'aussi, on travaille avec beaucoup d'organismes, on participe avec eux. Il y a des chercheurs maintenant qui ont développé des liens puis qui vont continuer sur d'autres sortes de projets ouais. avec eux.
Parce que j'ai peur que ça reste sur des tablettes. J'ai peur que finalement, il y ait des chercheurs qui profitent de cette expérience-là, puis qui, dans les 5 à 7, disent « Wow, c'est vraiment intéressant », mais qu'en bout de ligne, mis à part peut-être l'ascenseur plus central, qu'il ne reste pas grand-chose. Est-ce que c'est une crainte partagée? Ou...
Oui, je pense que oui. On a ce souci-là, c'est certain, dans le laboratoire. Puis, mais par exemple, on a commencé, ce qu'on n'a pas encore fait dans les années précédentes, ou en tout cas qu'on a commencé tranquillement à faire, c'est la sensibilisation davantage. On essaie de plus être... Par exemple, dernièrement, on a formé des commerçants d'Alexignon. C'est Altergo qui a offert sa formation. Nous, on est chercheurs qui évaluaient la formation mmh. d'Altergo, donc c'est un petit échange. Puis là, on se dit, bien, ces commerçants-là qui ont reçu la formation, là, on vient de donner le bagage à quelques commerçants. Est-ce qu'ils vont travailler ailleurs, ces gens-là? Est-ce qu'ils vont avoir acquis? C'est une façon de faire.
De toute façon, souvent, si c'est une chaîne, le proprio peut peut-être dire, « Ah, ben mon magasin de Fairview pourrait peut-être bénéficier d'une formation comme celle-là. »
Exactement,
ouais. Ça devrait faire des petits si les gens sont ouverts comme on l'espère. Monica Slanik, vous aussi, vous êtes chercheur au Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation. Moi, ce qui m'intéressait, et semble-t-il que c'est à vous que je dois poser ces questions-là, c'est y a-t-il à Montréal ou au Québec des endroits, que ce soit un centre commercial, que ce soit un terrain de jeu, que ce soit un centre communautaire, où les jeunes peuvent jouer, et semble-t-il que ça fait partie des tentatives du côté d'Alexinéon, entre autres. C'est ce que je comprends. Est-ce que j'ai tort?
Alors, tu me demandes s'il y a des aires de jeu dans les centres commerciaux qui sont accessibles.
Disons, à tout le moins, là, puisqu'on est à Plaza Alexinéon, est-ce qu'il y en a là-bas? Est-ce que ça fait partie des adaptations?
Non, il n'y a pas maintenant.
Ah, ça, c'est étonnant. Compte tenu de tout ce qui a été fait? Là.
Non, il n'y a pas un aire de jeu maintenant, mais oui, c'est vrai, on a proposé l'idée d'un parc accessible et en plus, un parc intergénérationnel.
OK. Bon, on y revient. Je vous arrête tout de suite. Mais on y revient. On a mis la table. On écoute The Beatles pour un petit peu moins de 2 minutes. Je prends une petite gorgée de café, puis on revient avec Monica.
Seven wonders, and your bed is green, but you can't see me.
The Beatles avec And Your Bird Can Sing, qui dit oiseau, dit parc, terrain de jeu. Monica, il y a bonne et mauvaise nouvelle dans votre présence aujourd'hui. Ce que vous me dites, c'est que sur papier, dans la tête des gens, le parc existe, les questions sont posées, le sondage est en cours, mais il n'y a pas de parc encore. Les mamans qui veulent amener leur bout de chou handicapé, il n'y a rien d'accessible, c'est ce que je comprends?
Oui, malheureusement, oui. Mais pour faire ou pour construire un parc qui est accessible, il faut commencer avec l'idée, il faut sonder les gens et il faut choisir les bons modules, faire des bons choix pour les équipements du parc pour que ce soit sustainable, quelque chose qui reste et qui peut être utilisé par tous les usagers.
Ouais. Alors, on me dit de vous rapprocher un petit peu plus du creux de mon oreille. Donc, les équipements existent. Au moins, je comprends que si on veut les acheter, si on veut les installer, il y a de ce genre d'équipement.
Oui, il y a de ce genre d'équipement, c'est sûr. Les étapes qu'on a déjà faites, on a fait un peu comme Delphine a expliqué, on a fait un projet pilote à l'hôpital juif de réadaptation. Et on a proposé un parc accessible, mais à l'extérieur. Comme j'avais dit, partie de construire ou la conception d'un parc comme ça, c'est de demander aux gens et d'expliquer ce qui peut être dans ce parc et de faire des choix. Alors, avoir les résultats de ce sondage et de ce plan, on peut après faire des recommandations pour un parc intérieur dans le Plaza Alexis Nihon.
Avez-vous reçu des réponses jusqu'à maintenant?
Pour le centre commercial, non. Mais pour l'hôpital juif?
Pour le parc, oui.
Non, on attend maintenant pour les fonds. Il y a beaucoup d'intérêt, mais on n'a pas une date prévue pour la construction. Pour le moment, c'est en pause.
Qu'est-ce qui pourrait exister, disons, dans le meilleur des mondes, là? Si, que ce soit à Rosemont, Notre-Dame-de-Grâce ou Quaticook, je voulais organiser un aire de jeu accessible, multigénérationnel.
Oui. Le meilleur, je commence toujours par un exemple. J'imagine une famille qui visite le parc. Alors, une maman qui amène sa mère et ses deux enfants à la parc. Alors, on a la maman qui a 33 ans, par exemple, les deux enfants qui ont 5 à 8, un dans une chaise roulante. Et elle vient aussi avec sa mère qui a peut-être, on dit, 60 ans. Alors, si on peut imaginer dans le milieu, il y a un jeu pour les enfants à jouer, peut-être une balançoire ou il y a quelque chose avec une glissade qui est plus large. Ou il y a une rock and glider, on peut avoir 5 ou 6 enfants avec une chaise roulante et toutes les choses bercent. C'est comme un grand bateau. Et imaginez qu'il y a un banc à côté qui est accessible et la maman a le choix de bavarder un peu avec sa mère. Alors là, dans cet exemple, toutes les personnes participent. Ou on peut imaginer que la mère et la maman sont un peu plus actives et sont assis sur un module comme un vélo et ils peuvent faire des exercices légers pendant qu'ils regardent les enfants qui sont dans le milieu qui jouent sur le module pour les enfants. Ou on peut imaginer aussi un grand jeu d'échecs ou de dames ou un jeu de mini-pat, par exemple. Mini-pat? Et tout le monde peut participer, tout le monde peut bouger. Il y a quelque chose à faire pour les enfants, quelque chose pour les adultes, toutes les générations. Et avec la conception propre, il y a aussi, alors il y a tous les gens, même toutes sortes de capacités qui peuvent participer dans une ère comme ça.
Que ce soit Delphine ou Monica, est-ce que l'une d'entre vous savez si le code du bâtiment s'applique à un aire de jeu extérieur? Parce que, bon, souvent, on va dire, disons, dans un commerce où lorsque vous ferez des rénovations, vous serez tenu de... Mais là, on rénove pas nécessairement un parc, mais il n'y a pas de raison de ne pas changer le module si le module existe. Est-ce que vous savez s'il y a des règlements qui touchent ces aires extérieures?
Il y a pas des... Il y a des guidelines, des recommandations. Mm-hmm.
On est bon là-dedans au Québec. Pas de mordant, mais beaucoup de recommandations.
Oui, beaucoup de recommandations. On a des guidelines pour faire, pour construire des équipements, des modules avec toute sécurité, les ADA. Ça, c'est des guidelines, des recommandations à suivre. Mais il n'y a pas juste les modules à considérer. Il y a aussi la surface et l'accessibilité, les petits chemins autour des modules et comme j'avais dit, la surface.
Monica, est-ce que ce genre de module-là rend l'utilisation pour quelqu'un d'ambulant plate?
J'ai pas compris.
Parce que parfois, bon, si je prends les sites web accessibles aux personnes aveugles, on dit que c'est pas mal moins agréable pour ceux qui voient. Parce qu'on enlève le flash, Si on adapte le module, est-ce que ça devient plate pour les non-handicapés?
OK. C'est une bonne question. Ça se peut, oui, mais on essaie de faire un module qui n'est pas plate pour le monde. Comme j'ai expliqué le bateau, par exemple, que je viens d'expliquer, ça, c'est pas plate pour les personnes qui n'ont pas une limite de mobilité ou...
Est-ce que c'est coûteux, ces adaptations-là?
Les modules, oui, ils sont coûteux, mais pas nécessairement plus que les équipements qui sont faits pour des personnes able-bodied.
Standard.
Non, si, le chose principale, c'est de commencer le parc avec tous les âges, toutes les capacités en tête. Si
c'est,
on veut
c'est
faire...
supposé d'être mixte, là. C'est vraiment...
Multigénérationnel.
Et multi... Les ambulants plus les
oui,
les
c'est,
non,
ça.
Ouais, c'est ça.
Si on fait des adaptations après, oui, c'est coûteux. Mais si on commence en première avec l'idée d'avoir tous les gens, l'accessibilité pour tous les gens, non, ça va être à peu près le même prix.
Mais là, le parc Laurier, là, ça semble que ça fait pas si longtemps qu'on l'a... renippé. Il y a Griffintown qui est encore en train de se poser la question comment garder nos familles. Les gens disent que ça a été raté, mais on veut apporter des ajustements. Est-ce que le CRIR, disons, essaie de taper sur l'épaule de certaines personnes en disant « Hey, nous, là, on a quelque chose à vous proposer. »
Bien, en fait, nous, dans le projet du Laboratoire Vivant, on collabore beaucoup avec quelqu'un qui est à l'accessibilité universelle de la ville. Puis c'est une priorité qui fait maintenant partie. La Ville de Montréal, dans son plan de développement, a mis l'accessibilité universelle comme un des aspects. Un plan quand même...
Il y a un plan. Pour avoir un plan, il y a un plan.
Et avec quand même, ils font, avec leur participation, avec leur collaboration avec Altergo, je pense qu'ils font quand même tranquillement, ils avancent vers un but qui est l'accessibilité universelle. Et c'est ça, cette personne-là qui travaille avec nous, avec qui on collabore, nous pose souvent des questions de « Est-ce que vous avez des recommandations? Quel banc je dois choisir pour que ça soit accessible et que ça convienne à tous? » La difficulté, c'est qu'encore maintenant, dans l'accessibilité universelle, dans la recherche, des recommandations ou des guides de pratique, comme il y en a par exemple en médecine, c'est pas encore développé... à ce point-là, en fait, il y a certains centres de recherche. Par exemple, à la personne de la ville, moi, je lui ai envoyé des informations que j'ai récupérées qui viennent de Chicago sur les normes, la distance pour les fauteuils roulants. Et en fait, mais c'est nouveau. C'est quelque chose de nouveau dans le design universel, dans le domaine.
Mais le fameux bateau là, de Monica, est-ce que... Non, mais c'est pas grave. Mais est-ce qu'il va falloir attendre 10 ans que finalement ce soit compris dans les normes officielles? Si ça fonctionne, ça fonctionne.
Non, il y a des... Moi, je suis un peu... the background dans les parcs d'extérieur. Alors, dans les États-Unis, maintenant, tous les parcs qui sont built,
construits,
Ils sont des parcs accessibles avec les modules que j'ai décrits, avec plusieurs modules que j'ai décrits. Alors, il y a aussi des parcs en Espagne où il y a des modules comme ça, des modules d'exercice pour les adultes. Non, il y a des parcs comme ça qui existent et qui sont utilisés.
Alors, Delphine, là, dites-leur d'arrêter d'attendre les normes puis le cahier, là, puis qu'ils passent à l'action, qu'ils appellent Monica Slanik. Merci beaucoup, Delphine. Attends un petit peu, vous, là. C'est quoi? C'est l'abbé?
Oui.
Bon, et Monica Slanik. Merci beaucoup, Gail.
Merci.
On garde contact. Rémi Hermoso et vous à la maison. Ben, passez une bonne semaine. C'est Luc Fortin qui dit prenez soin de vous.